Les cours du Collège de France, Wajdi Mouawad, chère l'invention de l'Europe par les langues et les cultures.
L'orée de cette quatrième leçon, qui est donc aussi le mi-temps de cet enseignement. Cet enseignement qui n'en est pas un. On pourrait alors formuler la chose de la manière suivante. Vivre consiste, parmi la panoplie des verbes que nous offre la langue, lesquels nous souhaitons conjuguer et lesquels nous souhaitons garder dans la boîte de leur infinitif. Et comment, à la faveur de ces verbes, quinque a arrivé au dernier jour de sa vie, rien dans les mains et rien dans les poches, parce que, chemin faisant, nous nous sommes délestés de ce qui pouvait nous alourdir, nos héritages, nos biens, nos réussites, nos échecs, nos certitudes, nos identités, nos appartenances, et le plus pesant des poids, celui qui est source de nos plus grandes douleurs, le dégoût que nous avons des autres et surtout le dégoût que nous avons de nous-mêmes. Alors, arrivé à ce point, sans se retourner, sans plus de mémoire, mis à part peut-être deux ou trois prénoms, une ou deux images, la sensation d'une caresse, passer le seuil, embrasser la mort, trembler devant elle un instant, mais seulement en signe de respect, monter dans la barque du nocher avec une légèreté qui nous laisserait presque hilar, et entrer enfin dans l'invisible en riant. Mais en attendant, il faut vivre. Il faut vivre et Zeus, qui régit toute chose, aux mortels, n'a jamais accordé de vie exempte de souffrance. Alors, dans cette vallée obscure où nous marchons, le défi quotidien consiste à faire les bons choix pour essayer de conjuguer le plus souvent possible certains verbes et le moins souvent possible certains autres. Aimer au lieu de geindre, jouer au lieu de vomir, donner au lieu de cracher, recevoir au lieu de haïr, accompagner au lieu de ruiner, consoler au lieu d'insulter, pleurer au lieu d'étouffer, manger au lieu de tromper, et puis rire. Mais rire au lieu de rien. Rire encore. Et puis d'autres verbes, dont la liste serait beaucoup trop longue ici, qui sont si merveilleux et qui disent la vie malgré tout, toujours malgré tout. Or, de tous ces verbes que nous conjuguons notre existence durant, que ce soit ceux que nous souhaitions conjuguer, ceux que nous regrettons d'avoir conjugués, ou ceux plus pénibles que les circonstances nous ont forcés à conjuguer, de tous ces verbes, le verbe choisir est celui qui les contient tous. Il n'y a qu'à observer. Nous choisissons à chaque instant, nous choisissons d'être là ou non, nous choisissons de rester ou non, de nous soumettre ou non, nous choisissons de trahir ou non, de torturer ou non, nous choisissons d'entendre ou non, de voir ou non, de parler ou de nous taire. Bien sûr, les raisons de nos choix sont multiples, mais aussi profondes ces raisons peuvent-elles être, elles ne deviennent effectives qu'à l'instant où on les affirme à travers la conjugaison du verbe « choisir ». Bref, c'est un verbe qui est partout. Il s'en est allé en fausse couche et nous disons, pour nous consoler, qu'il a choisi de ne pas naître. Et quand tel autre choisit de se tuer, noyade, pendaison, lame de rasoir, médicament ou coup de fusil, ceux qui restent doivent composer avec le silence de ce choix, l'être laissé aux proches ou non. Choisir est donc un verbe paradoxal. Choisir est omnipotent, il est omniprésent, mais il est aussi trouble, il est flou, lent, il est hésitant. Il se distingue du verbe décider, si franc, si net, si tranchant, si héroïque. On décide d'abord, on discute ensuite. Décider, c'est plonger. Décider, c'est faire confiance quand choisir est plein de méfiance. plein de suspicion, mais aussi plein de douceur. Décider, c'est faire acte de volonté. Choisir, c'est faire acte d'amour. Nous décidons d'une chose, mais nous choisissons entre plusieurs. C'est donc un verbe versatile, à double face, à triple sens. Ne pas choisir ce que nous désirions, une passion en place de la raison, une conviction en place de la soumission, peut relever de la crainte, de la faiblesse ou de la traîtrise, mais lorsqu'il s'agit de choisir de refuser une promotion, une invitation, de choisir de refuser un adultère ou de choisir de refuser de serrer une main, voilà que le verbe choisir relève de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité et de la droiture morale. C'est aussi un verbe quantique. Choisir ceci signifie peut-être que dans un monde parallèle, nous avons choisi cela. Quant à s'abstenir de choisir, garder ouvert toutes les options, cela relève d'une apnée impossible à tenir très longtemps. Ne pas choisir est un enfermement, un gouffre d'angoisse. À ne pas confondre avec le refus de prendre parti devant une injonction qui nous impose de choisir un camp contre un autre. Au contraire, de ne pas choisir un camp contre un autre, c'est dans ce cas faire le choix d'une troisième option, affirmer qu'il existe d'autres voies possibles que les deux autres camps refusent de considérer comme impossibles. L'absence de choix, c'est tout autre chose. L'absence de choix, c'est un refus d'engagement à 360 degrés. Le refus de reconnaître le moindre volume autour de soi, c'est le refus de l'espace, le refus d'être quelque part dans le monde. C'est soustraire le monde à ses dimensions, ne pas choisir, par la difficulté ou l'incapacité de choisir les informations sensorielles qui leur sont pertinentes de celles qui le sont moins, les personnes autistes perçoivent tous les stimuli de leur environnement au même niveau. Tous les bruits de fond, comme le vent, les conversations lointaines, les bruits des appareils électroménagers, sont alors perçus avec la même intensité que la voix de la personne avec qui ils sont en train d'échanger. Ne pouvant pas choisir d'abstraire certaines choses pour mettre en évidence certaines autres, ils ont alors la sensation de se dissoudre, de ne plus percevoir leur corps, tant ils se sentent envahis par ces stimuli extérieurs dont ils n'arrivent pas à choisir celui qui mérite leur attention. Pousser à l'extrême, ne pas choisir, condamne la matière à une fixité jusqu'aux atomes, jusqu'aux électrons qui la composent, qui cesseraient de bouger. Ces méduses qui statuent quiconque la regarde de face. À la boulangerie du coin, le dimanche, à l'heure de pointe du petit-déjeuner, malheur à qui ne parvient pas à choisir entre le croissant, le pain au chocolat ou le chausson aux pommes. Il ferait naître parmi les gens les plus civilisés qui sont derrière lui des élans de meurtre. C'est qu'il n'est pas toujours évident de choisir. On peut se perdre dans les labyrinthes des calculs et des considérations. Et plus on retarde le moment de choisir, plus le labyrinthe s'étend, se complexifie, sable mouvant de la volonté. Comment savoir si on fait le bon choix ? Question dont le verbe « décider » ne s'embarrasse pas trop. Choisir, lui, est aliéné à l'idée de savoir s'il fait le bon choix. Mais savoir est une illusion, car la preuve du bon choix échappe toujours à notre discernement. La conscience du point de non-retour est aiguë. Une fois le choix fait, c'en est joué du destin. Impossible de revenir dessus, car choisir est assassin. Il tue ce qui ne l'a pas été, et c'est son caractère meurtrier qui nous plonge dans l'angoisse et l'inquiétude. Choisir est le verbe du clair-obscur, puisque à chaque fois que nous le conjuguons, une chose est exposée à la lumière, quand tout le reste, sacrifié, est aussitôt rejeté dans l'obscurité. Et que ce soit nous qui choisissons ou nous qui sommes choisis, il est toujours question d'ombre et de lumière, de douleur et de joie. En ayant été choisi pour prendre cette année la charge de cette chaire Invention de l'Europe par les langues et les cultures, je me retrouve devant vous à être le recto à la place de tous ceux qui, au verso, ne l'ont pas été. C'est le verbe de la perte et du sacrifice. Pour notre bonheur comme pour notre malheur, être choisi pour jouer un rôle principal au cinéma ne relève pas de la même émotion que d'être choisi comme bouc émissaire au sein de son entreprise. C'est un verbe ensanglanté, mais il est à son versant un verbe incandescent. De ce fait, tout comme les autres, verbe, et puisque c'est lui qui nous intéresse, le verbe « écrire » n'échappe pas non plus au verbe « choisir ». Or, « écrire » aussi a un double sens. Tout le monde, ou presque, sait écrire si écrire, c'est orthographier. Mais personne, ou presque, ne sait écrire si écrire, c'est composer un univers. Alors, pour que le verbe « écrire » soit le verbe de la composition, non pas celui de l'orthographe, le verbe « écrire » doit s'arrimer à l'intuition davantage qu'à la raison. Les proportions entre intuition et raison varient et dépendent de chacun. Chez Angelica Liddell et Vincent McCain, cet équilibre n'est pas le même que chez Yasmina Reza et Valère Novarina. Mais qu'importe dans quelle proportion, chez ces quatre écrivains, l'intuition domine la raison. Et c'est pourquoi les univers qu'ils nous offrent sont toujours percutants et inquiétants. Entre l'intuition et la raison, tout comme entre le doute et la conviction d'ailleurs, se joue chez chaque artiste une partie de poker où les cartes en main ne cessent de changer, de miroiter, de se transformer. On ne peut se fier à rien, ni sur un as de pique, ni sur un 3 de trèfle, car dans la seconde, l'as de pique se transforme en glaise et le 3 de pique en papillon. Et on se retrouve sans comprendre ni comment, ni par où, ni à la faveur de quel miroir, par l'effet d'une prédisposition à l'hypnose ou au fantasme, allez savoir, on se retrouve au milieu d'un champ de ruines sous la terre duquel se trouve, on le sait, on le sent, un charnier qu'on devra déterrer pour tenter de redonner leur nom aux morts et aux disparus. Intuition davantage que raison, doute davantage que conviction, simplement parce qu'on ne sait jamais comment les choses vont tourner dans le jardin de l'écriture. C'est pourquoi à la question du sens et du signifiant, il est absolument vital d'opposer une méfiance farouche et immédiate. Et dès lors qu'il nous est demandé, que ce soit par un spectateur, un journaliste, un directeur de théâtre, un éditeur, un universitaire chevronné, un thésard, un critique, un ami, une maîtresse, un père, une mère, une fille, un fils, qu'est-ce que cela veut dire ou qu'est-ce que l'on a voulu dire à travers tel spectacle ou tel roman, se souvenir de la guerre des boutons de Louis Pergaud et répondre qu'on ne sait pas, que si on avait su précisément, on n'aurait pas venu. C'est-à-dire qu'on n'aurait eu aucune nécessité à faire ce spectacle. Et que la seule question qui vaut la peine d'être posée, et avec parcimonie, et seulement si question il doit y avoir, c'est qu'est-ce que je veux raconter plutôt que qu'est-ce que je veux dire ? Partant du principe que si je raconte ce que je veux raconter, alors ce que je veux dire et dont j'ignore la teneur, le thème, le sujet, la problématique, sera dit. Expliciter une histoire, c'est en égorger l'intuition. C'est dominer le récit. C'est se mettre en surplomb de ce que l'on raconte. Maîtriser la narration, c'est la martyriser. C'est tuer toute possibilité d'être surpris soi-même par ce qui se raconte. C'est se priver à la fois de la puissance du récit et de la puissance de l'écriture. Mais intuition ne signifie pas non plus free for all. Ce n'est pas synonyme de bordel, de bazar, au contraire. Parce que pour raconter, il faut une méthodologie. Ça ne se fait pas en criant ciseaux. Or, quelle que soit la méthodologie employée par l'écrivain, toutes sans exception, s'articule principalement autour du verbe choisir. On pourrait même dire que ces méthodologies n'existent que pour permettre de choisir, d'échapper au labyrinthe de ce que choisir peut devenir et mettre en place un microclimat qui va permettre chaque fois qu'un carrefour se présente au cours de la narration de choisir. Choisir ce qui va arriver au personnage, par exemple. Est-ce qu'il meurt ou il ne meurt pas ? Est-ce qu'il ment ou ne ment pas ? Est-ce qu'il revient ou il ne revient pas ? À droite ou à gauche ? Mais alors, quelle est cette méthodologie qui peut échapper à la dictature du sens de ce que l'on veut dire ? Choisir en fonction du sens oblige à penser différemment. On se dirait, je veux dire telle chose, donc je vais faire en sorte qu'il arrive tel événement au personnage. Cette manière consiste à plaquer le récit pour qu'il corresponde à ce que l'on veut dire, à ce que l'on veut démontrer. Ce sont par exemple les pièces de théâtre de Jean-Paul Sartre, ou dans une certaine mesure celle de Albert Camus, mais aussi de manière sans doute beaucoup plus éclatante et puissante, celle de Bertolt Brecht. Le théâtre comme lieu de démonstration d'une pensée philosophique ou sociale. Mais si, au contraire, l'aventure de l'écriture consiste non pas à démontrer une idée ou à maîtriser un sens, mais découvrir ce qu'on ignore de soi, Et si ça consiste à suivre la ligne d'un récit à l'aune de ce qui écrit en nous, cette ombre qui agit en nous, si nous sommes effectivement des immeubles habités par des locataires dont on ignore tout, alors il faut laisser faire le locataire. Il faut le laisser ouvrir des portes inattendues, donnant à des savanes où vont et viennent des fauves qu'on ne soupçonnait pas en soi. Faire en sorte que ce soit ce locataire qui choisisse ce qui adviendra du personnage. Choisir non pas en vertu d'un sens que l'on veut démontrer, mais à la faveur, tout simplement, de ce que nous, nous aimerions qu'il nous soit raconté sans qu'on en sache les raisons, de ce qui éveille notre curiosité, de ce qui nous étonne, de ce qui éveille notre intérêt. Le personnage va mourir. Mais pourquoi ? J'en sais rien, c'est mieux, ça suffit. Pas besoin de chercher plus loin. Faire confiance à ce qui nous bouleverse, faire confiance à ce qui nous inquiète, ce qui fait ouvrir en nous les portes des tabous et des interdits. Ce qui nous donne le sentiment qu'en racontant ceci, non seulement on se met à nu, mais on se devient étranger. On ne savait pas ça de soi. Ouvrir la boîte de Pandore en étant à la fois et la boîte et Pandore. Si chaque choix articule alors les actions, les situations, les conflits qui vont déchirer les protagonistes, choisir met en place les enjeux profonds qui vont surtout permettre l'identification entre le lecteur et la fiction, entre le spectateur et le personnage. L'identification. Or, c'est l'addition de tous les choix qui ont été faits au cours de l'écriture qui forme le miroir à travers lequel se joue pour le spectateur cette identification où se reflète la capacité d'un personnage à évoluer, à se déplacer sur le fil de temps, à voir se réaliser ce qu'il souhaite ou ce qu'il craint, à se tromper, à s'entêter dans son erreur, à faire face à sa capacité ou non à se transformer, à se dépasser, bref, à changer, pour le meilleur ou pour le pire. C'est à cela qu'un spectateur s'identifie. Or, ce miroir-là est le fruit d'une suite innombrable de choix qui ont été incubés dans le mystère de l'intuition, jamais dans celui de la raison. Un personnage de fiction n'est jamais immobile. Soit il fuit quelque chose, soit il court vers quelque chose. Mais qu'il fuit ou qu'il court, son humanité est toujours en jeu, toujours. Et c'est elle qui se débat au milieu de ses démons. À travers ce combat, on voit alors se dresser une même interrogation. À quel prix la nature humaine est capable de changement ? À quel prix Créon finit-il par ordonner que Polynice soit mis sous terre ? Pourquoi a-t-il fallu la mort de son fils, celle de sa femme et la chute de sa maison pour l'arracher à son entêtement ? Si Sophocle nous montre comment la folie et la douleur s'abattent sur Créon, rien ne nous dit que la nature profonde de Créon a changé après tout cela. Et le roi Lear ? Le choix qu'il fait de bannir Cordélia, entraînant par orgueil sa propre chute et la mort de sa fille, tout cela contribue-t-il à le transformer, à le changer ? Et Mère Courage, après avoir perdu son premier fils à cause de la guerre, après avoir perdu son second fils à cause de la guerre, après avoir perdu sa fille, la muette, à cause de la guerre, que fait-elle ? Eh bien, elle reprend sa cantine et suit le convoi militaire pour s'en aller vers la guerre. La guerre ne lui aura donc rien appris, ne l'aura pas changé. La guerre lui aura pris ses trois enfants et l'a rendue bête, opaque. Mère Courage, creusée par le malheur, ne change pas malgré sa fureur et sa colère et les injustices dont elle est témoin. Et il en va de même pour tous les personnages. Arkadina change-t-elle après le suicide de Tréplef et Mademoiselle Julie ? Et les morbides personnages de la maison de poupées de Ibsen changent-ils malgré les drames ? On voit dès lors se dessiner une géographie des verbes de l'écriture. Si le verbe écrire se trouve d'un côté d'un ravin, et si le verbe changer lui fait face de l'autre côté de ce ravin, ils sont alors tous deux reliés par un pont, et ce pont, c'est le verbe choisir. C'est parce qu'il choisit d'écrire ceci plutôt que cela, choisit de raconter ceci plutôt que cela, choisit de commencer l'action à tel moment et de la terminer à tel autre, que l'écrivain parvient à raconter la capacité ou non d'un personnage à changer, à comment changer et les conséquences de ce changement ou non. Pourtant, Et c'est là l'extraordinaire paradoxe. Ceux qui écrivent savent qu'il est quasiment impossible à un humain de changer par lui-même. C'est même peut-être pour cela qu'ils se sont mis à écrire. Ils savent, à force de raconter des histoires, de suivre des fils narratifs, d'observer autour d'eux, que changer est une illusion. Un personnage se résout, il se résigne, il accepte plus ou moins de bonne grâce, il abandonne, mais il ne change pas. Aucun personnage dans aucune histoire ne change. Il peut s'en vouloir de ne pas changer. Il peut se tuer pour ça, tel Ophélie dans Hamlet. Il peut se maudire comme Oreste. Il peut mourir comme Phèdre, mais il ne change pas. Au contraire, il emporte avec lui sa nature et ses faiblesses les plus profondes. Il découvrira peut-être la douceur de l'amour, la bonté du pardon, mais il restera ce qu'il est, comme nous tous. Voilà pourquoi le verbe écrire est condamné à finir sans cesse, à chaque texte, à chaque roman, à chaque spectacle, dans les bras du verbe échouer. Mais c'est aussi là sa beauté. Écrire, c'est accepter d'entrer de plein pied dans le mythe de Sisyphe, pousser vers le haut un récit dont l'effondrement, immanquablement, comme une malédiction, nous oblige à redescendre et à recommencer pour essayer de comprendre où, à quel endroit du trajet a lieu le faux pas qui empêche, au bout du compte, le changement. Le nœud est là, donc, la question, une des rares qui en vaut vraiment la peine. Est-ce que, par sa seule volonté, un être humain peut changer ? Peut-il par lui-même dévier d'un chemin, dévier de la guerre et des massacres ? Peut-il choisir cela ? Il faut pour cela un acte incommensurable. Bien sûr, il n'y a pas de condamnation à l'immobilisme et il arrive qu'un tel, par exemple, parvienne à mettre un terme à telle ou telle addiction, qu'une telle parvienne à s'extraire de certaines aliénations, bien sûr. Mais tous les alcooliques qui ont cessé de boire vous le diront. Il faut rester sur ses gardes et mettre en place des digues, car la maladie ne s'en est pas allée. Elle est cadrée, elle est mise en enclos, mais elle est toujours là. L'antisémitisme dort toujours dans l'esprit de qui l'a une seule fois éprouvé. Et son arbre jamais ne se déracine du cœur où il s'est planté. Il s'assèche, mais ne meurt pas. Et c'est la même chose avec toutes les haines et toutes les détestations. Le racisme, l'homophobie, l'islamophobie, on ne se débarrasse pas du cauchemar une fois que le cauchemar est entré. On le gère. C'est la nature du mal. On le gère. Là où il pénètre, il reste et ne s'efface plus. On le gère. Il peut être endigué, cadré, jamais effacé. Il faut le gérer. Malgré l'admiration que nous pouvons éprouver devant ces actes de courage qui sont les victoires sur les addictions et les formes de détestation, nous savons combien cela reste fragile parce qu'en vérité, nous n'avons pas accès à nous-mêmes. Nous n'avons pas accès à l'étendue du mystère que nous sommes pour nous-mêmes et les océans de puissance dont nous pressentons la présence, mais qui nous demeurent inaccessibles. Pour ne pas dire interdit. Si nous pouvions avoir accès à la force démultipliée que surgit lorsque tout à coup notre animalité passe à travers les mailles pour bondir, décuplant nos forces comme celui-là qui, pour sauver son enfant, n'a pas même conscience qu'il soulève une voiture. Si nous pouvions accéder à cette puissance, cette force physique et psychique où la question de la volonté ne se pose même plus, nous pourrions peut-être changer par nous-mêmes. Mais Alpha du Centaure existe. C'est juste que nous n'avons simplement pas les moyens de la rejoindre. Eh bien, c'est la même chose. Cette puissance en nous existe, nous n'avons simplement pas les moyens de la rejoindre. S'il est vrai, comme le dit Michel Cassé, que l'humanité n'a jamais été au-delà d'une seconde lumière de la Terre, cela n'est-il pas vrai aussi de chacun par rapport à lui-même ? Peut-on s'éloigner de soi ? L'humanité peut-elle s'éloigner d'elle-même ? Si, malgré toute la technologie dont nous disposons, nous ne sommes pas en mesure, dans l'insondable et terrifiante immensité, de nous détacher de notre planète, n'est-il pas sage de penser que nous sommes tout autant condamnés, chacun, et pour longtemps, non seulement à accepter de vivre avec nous-mêmes et ce que nous sommes, mais aussi avec le fait que l'autre est condamné tout autant à être qui il est et qu'il a aussi peu de possibilités de transformation que nous-mêmes en avons pour nous-mêmes. Alors peut-être faut-il arrêter de lui en vouloir, de ne pas être capable de faire ce que nous ne sommes pas capables de faire davantage. Ou bien, au contraire, faut-il voir notre incapacité technologique de nous éloigner de notre planète comme un miroir inversé de notre rapport à nous-mêmes ? Le recto et le verso, l'ombre et la lumière, se souvenir de Sœur Panton et de l'immensité minuscule de son jardin, et se dire que c'est justement parce que nous sommes condamnés à notre planète que nous pouvons nous libérer de nous-mêmes. Ou pour le dire autrement, celui qui se voit à l'envers dans la partie creuse d'une cuillère, eh bien, il n'a qu'à retourner la cuillère pour, se regardant dans la partie bombée, se voir à l'endroit. Ou peut-être, pour être encore plus prosaïque, oui, contrairement à sa capacité de quitter sa planète, un être humain peut changer par lui-même. Il lui suffit simplement de retourner la cuillère. Seulement, voilà, il est très difficile de retourner la cuillère et on ne sait pas pourquoi. Et encore une fois, on retombe sur nos pieds et la question demeure, pourquoi est-il si difficile de changer par soi-même? Et comment appréhender ce paradoxe qui veut que, s'il est si difficile de changer par soi-même, rien n'est plus facile aux événements extérieurs de nous changer par la brutalité de leur surgissement. Pourquoi est-il si difficile de se résoudre à changer de métier quand il est si simple pour notre patron de nous mettre à la porte? Pourquoi est-il si difficile de se résoudre à changer de métier alors qu'on y rêve, qu'on y pense depuis des années, qu'on ne cesse pas de le rabâcher aux oreilles des autres? Moscou, Moscou, un jour nous repartirons pour Moscou et on reste là alors qu'il y a une gare. Qu'il suffit d'acheter des billets et à nous, Moscou. Mais non, on reste et on annonce. Je changerai bientôt de métier, je me reconvertirai, vous verrez, si, si, si. Et on continue pourtant à prendre le métro. Pourquoi est-il si difficile de poser le geste? Pourquoi est-il si difficile de changer de chemin quand il suffit du surgissement d'un rien pour nous arracher au nôtre et nous jeter brutalement sur un chemin tout à fait différent? Pourquoi une seconde de traumatisme suffit pour nous jeter à des milliards d'années de lumière de celui que nous étions, alors qu'essayer de changer d'un iota par soi-même se révèle une tâche titanesque. Des années de psychanalyse parviennent à peine à faire bouger d'un centimètre la montagne d'éléphants que nous sommes, quand la plus petite des souris sorties de la panoplie des traumatismes nous fait faire des bonds extraordinaires, dont il nous faudra d'autant d'années de psychanalyse pour nous remettre. Qu'est-ce que c'est que cette blague? Rien de plus difficile de s'extraire de la détermination de sa vie. Et pourtant, nous n'avons aucune certitude face aux imprévus de l'existence. Comment on concilie cette contradiction? Nous aimerions échapper à ce qui semble être gravé dans le marbre, tout en ayant le sentiment qu'en vérité, rien n'est écrit, ni rien ne s'écrit, et que nous vivons ballottés par le vent des probabilités, sans compter que notre époque a décuplé nos hasards et nos coïncidences, et qu'un SMS de trop peut dorénavant provoquer un séisme et qu'un simple horaire d'avion peut décider de la langue dans laquelle nous allons parler le reste de notre vie. Comment, dans ce grand bazar, ce vacuum, cette chasse d'eau monumentale, croire encore que, pour les merdes que nous sommes, la vie puisse avoir encore un sens autre que celui qu'on lui invente? Et que si on décide de raconter des histoires avec un début, un milieu et une fin, ce n'est pas parce qu'on croit que l'existence a une cohérence avec un début, un milieu, une fin, au contraire, mais précisément parce qu'on a tellement fait l'expérience de son incohérence qu'on ressent le besoin, par le fantasme, de coaguler un sens comme on jette une bûche dans le feu pour se réchauffer. Qui pourrait croire que la bûche brûlera toujours, se consumera sans cesse? Personne. Nous savons qu'elle tombera en cendres, comme nous savons que les histoires ne sont que des illusions. Mais qui ne sait pas allumer un feu au milieu de l'hiver se condamne à une mort lente qui le laissera statufier l'hiver durant, congelé tel un chien surpris par la glaciation. Eh bien, qui ne sait pas raconter une histoire au milieu de la nuit finira par se pendre d'ennui à force de trouver le temps si long au curetage de son insomnie. Alors, je ne veux vraiment culpabiliser personne. Et il n'y a pas à le faire. Mais il faut vraiment avoir vécu sa vie durant dans des pays monstrueusement en paix pour se permettre le luxe de se réclamer uniquement d'objets esthétisants qui n'ont pas d'autres ambitions que de se contempler dans la puanteur excrémentielle de leur confort. Être narratif ne signifie pas croire en la narration. Au contraire, comment croire à la moindre narration quand on a vu le jardin de son enfance exploser? Comment croire à la narration Comment ne pas penser que toute narration est illusoire? Comment croire à la narration lorsque, à l'âge de 7 ans, on a ressenti un chagrin inconsolable pour des courgettes, des aubergines et la coriandre qu'on a plantées, arrosées et vues pousser au milieu desquelles un obus est tombé? Comment, lorsque rien n'a eu de sens dans sa propre existence, ne pas croire que nous ne sommes pas nous-mêmes une illusion? Et surtout, comment faire le lien entre les événements qui nous ont changés et notre incapacité à nous changer nous-mêmes. Comment réconcilier ces deux choses ? Combien de fils et de filles d'exilés ici dans cette salle ? Combien de fils et de filles de rescapés ? Combien ici à devoir faire avec des chemins inattendus et se construire dans des langues nouvelles ? Combien d'adultes ici parlent-ils leur langue maternelle à la manière d'un enfant parce qu'à celle-ci, enfants, ils ont été arrachés ? Combien, s'ils croisaient leur grand-père ou leur grand-mère, auraient besoin d'un traducteur ? Parce qu'en une génération, personne ne parle plus la même langue. Combien ont refusé ou se sont vus refuser l'apprentissage de la langue de leurs ancêtres parce que la honte de reparler une langue meurtrie les en a empêchés. Et quand ce n'est pas la honte, le rejet de parler une langue maternelle parce que celle-ci se trouve être aussi la langue de l'ennemi. Aux anges que nous pourrions être, nous n'avons de cesse de nous couper les ailes. Combien à devoir faire le ménage incessant de ce qui a été tué, caché et oublié. Combien de vies ensevelies sous les héritages invisibles, silencieux et muets. Combien de deuils de traditions non transmises, vie sans récit, sans plus de mémoire, combien de douleurs niées, reniées, effacées. Et pourtant, de tous ceux et celles ici qui lèveraient la main à toutes ces questions, tous ceux qui sont là pour appartenir à la horde des exilés et des arrachés que la vie a ballottés de droite à gauche, les obligeant au changement perpétuel de géographie et d'histoire, combien sont-ils en mesure de changer d'un iota de leur caractère ou de leur tempérament pour cesser, dans le quotidien de leur silence, de faire souffrir et rendre malheureux leurs proches ? Alors, quand on prendra la mesure de ces questions, on comprendra pourquoi on choisit de plonger dans la narration, tout en étant parfaitement conscient qu'il n'existe jamais la moindre narration dans la brutalité de la réalité et que il était une fois, eh bien c'est toujours n'importe quoi. Pourquoi donc est-ce si difficile de choisir de changer par soi-même quand il est si simple de changer sans qu'on l'ait choisi ? Je n'ai pas choisi de quitter mon pays, j'étais enfant, ce sont mes parents qui ont décidé de partir. Je n'ai pas choisi la France, ce sont mes parents qui ont choisi. Je n'ai pas pu choisir, je n'étais pas en mesure de choisir, parce que je n'avais pas le choix, vraiment je n'avais pas le choix, je n'ai pas eu le choix, on n'a pas le choix, on n'a pas eu le choix, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Combien de fois ces expressions reviennent dans le langage comme pour se disculper ? Mais si on avait pu choisir, si on avait eu le choix, si on avait pu être en mesure de faire le choix, qu'aurait-on choisi ? Et si, et si, et si, et si, et si, et si, écrire, c'est raconter la honte de ces uchronies. Les galaxies sont comme des manèges. Les galaxies sont comme des manèges à cheveux de bois qui tournent si vite dans l'univers que les étoiles situées en bordure de ces galaxies, en raison de la force centrifuge et en tenant compte uniquement de la matière qui brille, eh bien, ces étoiles devraient physiquement et mathématiquement être éjecté de ces galaxies. De cette contradiction observée, il a été théorisé tout au long de la seconde moitié du XXe siècle l'idée qu'il devait exister une main invisible qui tient les étoiles et les empêche de partir aux quatre vents. Ou plus précisément, une matière qui n'émet ni n'absorbe de lumière, composée de mini-trous noirs qu'on a appelés matière noire, mais qu'on devrait plutôt appeler matière invisible, Dixit, Michel Cassé et Étienne Parizeau. Mais appelons-les matière noire pour nous retrouver. Nos galaxies intérieures, faites de nos héritages connus, communs et personnels, celles qui sont visibles, innées, acquises, qui constituent nos soubassements, nos folies, nos tabous, nos raisons et nos capacités à la maîtrise, tournent aussi en manège de cheveux de bois si vite que sans une matière noire, nous serions soumis au pire des délires, aux folies les plus sauvages, et nous serions alors privés de langage, comme lorsque la douleur devient si vive que toute notre humanité s'effondre. Or, du point de vue scientifique, toute tentative pour identifier cette particule élémentaire, la matière noire, s'est soldée par un échec, que ce soit celle conduite dans les tunnels du Mont Blanc, dans les grands accélérateurs ou celle du grand collisionneur de Hadron, la matière noire échappe à toutes les expériences. Nous ne parvenons pas à la localiser, à la voir, à l'identifier. À l'image de l'univers qui tient sans que nous sachions comment, eh bien, nous tenons, nous aussi, sans trop savoir ce qui nous fait tenir. Nous ne connaissons pas plus de 4% de la matière qui compose l'univers. Quel pourcentage de nous-mêmes voyons-nous ? Guère plus que ce que nous percevons de l'univers. Combien d'entre nous, alors, pareillement, sommes à la recherche de ce que pourrait être cette fameuse matière noire, cette invisible qui fait tenir ensemble les galaxies de nos vies qui tournent si vite ? Comment parvenir à changer si nous ne savons pas ce qu'est cette matière noire en nous? Alors, qu'est-ce que donc l'écrivain, si ce n'est celui qui, par le truchement de la poésie, une folie, permet de faire surgir, malgré les projecteurs surpuissants de la raison, des éclats d'obscurité qui nous font un instant, toucher à ce qui pourrait être cette matière noire qui constitue l'humanité de chacun de nous? Mais bien sûr, voir ne suffit pas. Et l'art, on le sait, n'a jamais empêché la moindre barbarie, n'a jamais permis le moindre changement. Pour changer, il faut être en mesure de déclencher un mouvement herculéen qui va au-delà de ce que nous pouvons nous figurer. Cela semble si immense que même les dieux semblent hésiter à l'exiger des mortels. Si le dieu chrétien exhorte à la repentance, il n'ose pas prononcer le mot de changement. Quant aux divinités grecques, si elles restent intraitables envers qui fait preuve de démesure, ils montrent une certaine indulgence envers la capacité pour un mortel de changer, lui laissant jusqu'au dernier, la dernière seconde avant de sévir. Voyez par exemple Ajax aux larges épaules, qui fut le rempart des Grecs pendant la guerre de Troie. Lorsqu'il devint fou parce que les généraux grecs choisirent de faire don des armes d'Achille à l'ingénieux Ulysse plutôt qu'à lui, préférant ainsi récompenser la ruse plutôt que la force, et lorsque, enragé, dévasté par cette décision, cette injustice absolue, à l'aube, Ajax sortit de sa tente, son épée à double tranchant à la main, et s'engagea le long d'un chemin vers la tente des généraux grecs dans le but de les tuer tous. Athéna attendit jusqu'au tout dernier moment avant d'agir, espérant qu'Ajax retrouve la raison et change de sentier. Mais lui, allant jusqu'au bout, ne voulant pas démordre de sa colère, s'entêta et persista dans sa fureur, et ce n'est qu'au tout dernier moment, à l'orée des premiers campements, lorsqu'elle n'eut plus le choix, qu'Athéna intervint et jeta un voile sur les yeux d'Ajax, brouillant sa vision, lui laissant confondre le troupeau de taureaux et de vaches qui paissaient à côté, avec les généraux qui dormaient sous leur tente. Alors lui, en proie à ce délire, Ajax entre dans l'enclos des animaux et se jetant sur les bêtes, on le vit bondir au milieu d'elles en poussant des hurlements furieux, en riant de rage, transperçant les bovins, les décapitant, charniers effroyables, les insultant, les battant, les frappant, croyant trucider ici Agamemnon, là Ménélas, et réservant les pires châtiments à Ulysse. Ajax était un damné sous le regard épouvanté des guerriers qui assistaient impuissants à la folie d'un si grand héros. Ajax était perdu. Pourtant, il n'a pas changé. Il n'a pas voulu changer. Et même lorsqu'il prendra conscience de sa folie, qui sera terrassée par la honte et l'humiliation, il ne changera pas. Il restera ce qu'il est jusqu'au bout, se donnant la mort, seule manière pour lui de se débarrasser enfin de lui-même. Naître serait donc cela, sortir de sa tente à l'aube, habité par une colère ancestrale, et se mettre en chemin avec toute la potentialité des verbes. Mais contrairement à Ajax, à mesure que nous avançons le long de ce chemin, à mesure qu'il devient de plus en plus difficile d'en dévier, essayez de découvrir que, en fait, ce sont les chemins qui dévient. L'horizon change, à tel point que l'on finit par se dire qu'il n'existe pas de cible au voyage, mais il existe un miroitement. À l'horizon vers lequel immuablement nous nous dirigeons, quelque chose danse là-bas, une beauté qu'aucun désespoir ne parvient à éteindre. Allant vers elle, nous dérivons, sans le savoir, en une variation lente, si lente que nous ne la percevons pas. Nous pensons aller droit, mais degré par degré, nous prenons le champ comme celui qui, un sac à dos vide sur le dos, n'est pas en mesure de sentir le poids s'accumuler jour après jour sur son dos, lorsque ce poids n'est que l'addition de grains de sable. Le porteur finit même par oublier la présence de ce sac et n'a plus que la sensation d'un poids qui le force à se courber. Poids des choix que nous faisons et de leurs conséquences. Écrire, c'est alors une manière de diminuer le poids, le transformer, le métaboliser, mettre en encre le poids, faire circuler en soi le sang d'une histoire, s'en enduire les mains et le visage et faire naître le récit qui l'a construit. Si choisir est au cœur de la méthodologie, donc, comment se construit l'architecture du récit? Son gros œuvre, son béton. Qu'est-ce qui procède à son dessin technique, à sa dramaturgie, à la fabrication de sa structure? Qui est le maître d'œuvre de la structure de la narration? tel qu'il a été énoncé lors de la première leçon, il faut partir du principe totalement irrationnel que toute pièce de puzzle trouvée par terre appartient à la même image perdue, peu importe où cette pièce a été trouvée, et peu importe la géographie qui les sépare. Selon ce principe, toute chose, n'importe laquelle, la plus banale comme la plus sensationnelle, a la potentialité d'être une pièce de puzzle. On entre dans une salle, dans la salle d'attente d'un cabinet d'un dentiste. D'autres patients sont là. L'un d'eux a un chien. On salue, on s'assoit. Dans un coin, il y a un enfant qui joue aux cartes, installé sur un petit pupitre, comme on en trouve parfois dans les classes maternelles. Le dentiste a voulu faire un coin enfant. D'abord, on n'y fait pas attention. Et puis, peu à peu, on sent que cette image éveille un intérêt, non pas chez nous, mais en nous. Quelque chose ou quelqu'un en nous s'agite et semble cogner contre les murs de notre conscience pour attirer notre attention et nous indiquer que cela, cet enfant-là jouant dans le cabinet d'un dentiste, installé à un petit pupitre comme ceux que l'on voit dans les maternelles, eh bien cela, ça, tout ça, cette image, est une pièce de puzzle qu'il faut ramasser. Alors, sans chercher à comprendre, surtout pas, ni chercher le sens, ni chercher à déduire un récit avec ses causalités et ses conséquences qui justifierait la présence de cet enfant dans ce cabinet de dentiste et ce pupitre, eh bien, ramasser cette pièce de puzzle, c'est-à-dire la noter dans un carnet, la dessiner, si on peut, ou simplement écrire comme on écrirait les ingrédients d'une recette. Enfant dans un cabinet de dentiste, jouant seul aux cartes, pupitre maternel, un chien à ses côtés, point. Ça, c'est une pièce de puzzle dont l'image est absolument impossible à deviner. On ne sait pas à quoi ça appartient. Dès lors, si on reste attentif à la moindre irruption qui fera s'agiter en soi ce locataire, cette ombre qui cogne sur les murs en disant « pièce », sans nous donner la moindre explication, nous indique « ceci est une pièce de puzzle » ou pas, le carnet petit à petit se remplira au fil des jours et des semaines d'un ensemble d'images qui ne semblent avoir aucune relation les unes avec les autres. Se souvenir que c'est quelque chose en nous qui choisit ce qui est une pièce et de ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas nous. Nous ne faisons que ressentir, nous captons l'intérêt auquel nous obéissons sans comprendre et nous faisons simplement noter dans le carnet. Choisir devient donc un symptôme. Symptôme d'une image perdue qui remonte du fond de notre propre folie, laquelle repose sur une douleur oubliée, si lointaine qu'elle nous a constituée à jamais. Choisir, c'est donc un balbutiement. Choisir, c'est bégayer. C'est inventer un alphabet à droite et à gauche pour dire ce qui sort de l'ombre. C'est redonner un sens nouveau à tous les verbes de notre existence, les faire renaître à chaque jour, les redécouvrir à chaque jour, les sortir de leur tombeau, même au prix des plus grands désastres. Et il faut savoir patienter, parfois des années, mais un jour, on ne sait pas pourquoi. En traversant la rue, l'agglomération magique a lieu. Soudainement, mais on ne sait pas pourquoi là, comme sous l'effet d'un aimant qui agglomère l'infinité des limailles de métal autour de lui, tout à coup, toutes ces images, toutes ces pièces de puzzle s'agglomèrent et se rassemblent et l'image surgit. Quelqu'un, quelque part, un jour, lui est arrivé quelque chose. Ça y est, c'est offert, c'est donné, la situation, l'histoire, la narration. Là, la raison entre en action et se saisit de l'objet pour commencer à le déplier. Le verbe choisir, à ce moment, entre en action. Écrire, c'est gérer sans cesse les carrefours avant de s'enfoncer dans des terres qui mènent vers d'autres carrefours. À chaque carrefour, il faut choisir comment poursuivre. Qu'est-ce qui arrive au personnage ? Pour emprunter la bonne direction, il s'agit d'écouter le grondement de ce qui n'est pas apaisé et d'en suivre la trace. Il faut se faire télékinésiste et Y en main, tel un sourcier qui ressent à travers son propre corps gronder l'électricité de l'eau sous la terre, il faut ressentir sous sa chair les humiliations et les hontes qui grondent le long des égouts de la mémoire. Les suivre jusqu'à leur source et là, avec les moyens dont on dispose, là, eh ben, il s'agit de faire de son mieux. Il faut travailler, s'acharner sur le texte pour nommer, renommer, fredonner les noms et les prénoms à voix basse, pour rappeler à soi les morts, les invoquer, les consoler, raconter leur malheur et leur désespoir, témoigner. Écrire, c'est alors être au cœur du monde. C'est ainsi qu'on entre sur ce territoire dévasté dont il a été question plus tôt pour dire « ici, ici et ici, il y a un charnier » et se mettre à déterrer. Si le verbe « choisir » de chaque côté du ravin qu'il enjambe, relie le verbe écrire au verbe changer, alors on peut dire, on peut déduire qu'écrire et changer sont des verbes éminemment politiques, puisque choisir, le verbe qui les relie, est la pierre angulaire sur laquelle repose la démocratie. Quand la dictature s'emploie par tous les moyens à bannir le verbe choisir, du moins à le contrôler et le manipuler, la démocratie cherche à l'honorer, elle l'honore du moins à chaque élection. Voilà pourquoi écrire et changer sont des actes sévèrement punis dans toute dictature, puisqu'ils font ressentir en creux la présence du verbe choisir. Voilà pourquoi aussi, lorsqu'un gouvernement d'un pays démocratique s'emploie à affaiblir ses écrivains, affaiblir ses artistes, il déshonore la démocratie. Car ce n'est pas en réduisant la définition du verbe choisir à une grille Excel, dont la finalité conduira à un équilibre des comptes, que le malaise dans lequel s'englue l'Occident se résorbera. Oser la poésie, ce n'est pas non plus un juron, ni une inconséquence budgétaire. C'est faire l'effort de choisir un chemin où le langage reste libre, où il est encore possible d'inventer des histoires et de redonner un sens nouveau aux mots de la tribu, c'est-à-dire un espoir fondé non pas sur le bien-être matériel, mais sur un rapport à un monde libéré de la peur de l'autre. Choisir cela. Mais que ce soit la dictature ou la démocratie, le langage tend aujourd'hui à s'aplanir, réduisant l'écart qui sépare démocratie et dictature. Or, plus elles sont proches l'une de l'autre, plus la logique veuille qu'on choisisse la dictature pour son efficacité, sa rapidité, sa simplicité. Si on veut comprendre la puissance de la démocratie, il faut la garder la plus éloignée possible de la dictature. Or, ce qui l'en éloigne de ce fait, ce qui lui donne un langage différent, c'est l'indépendance de la justice. C'est la liberté et l'égalité des femmes. C'est la liberté de créer des artistes. C'est l'indépendance des médias. C'est la liberté des universités à enseigner. C'est la liberté de la recherche scientifique et intellectuelle. Plus la démocratie renforce ses piliers, plus elle s'éloigne de la dictature. Plus elle les affaiblit, plus elle s'en approche. Plus son langage se pervertit. Or, une dictature est un trou noir. Elle a un horizon des événements au-delà duquel plus rien ne peut plus lui échapper. Voir nos démocraties s'approcher de cet horizon par l'interdiction à l'interruption de grossesse, par la marginalisation des artistes, par la concentration des médias et le démantèlement des universités et la radiation des programmes de recherche est le piège dans lequel notre époque est sur le point de tomber. Pour des raisons que je vais tenter d'expliquer le plus clairement possible. J'ai toujours eu l'intuition qu'il existe un lien viscéral, congénital, entre la naissance de la démocratie et la météo. Pour comprendre la source de cette hypothèse, qu'aucune recherche archéologique ne peut étayer, je n'ai même pas mon bac. Il faut avoir vécu deux expériences qui s'opposent, mais dont le contraste a agi chez moi, comme un soudain éclair, une révélation qui offre le sentiment de l'évident. Alors, la première de cette expérience consiste, il faut l'avoir vécue, la première de ces expériences consiste à attendre, au milieu du mois de février, à 6 heures du soir, par une température de moins 23 degrés Celsius, mais dont le ressenti, à cause d'un vent polaire provenant de Russie, oscille entre moins 38 et moins 42, il faut attendre un autobus qui ne vient pas. Il faut vraiment avoir vécu ça et l'avoir vécu non pas en touriste, trouvant cela exotique, oh mais dis donc, qu'est-ce qu'on s'amuse, mais il faut l'avoir vécu en exilé, sans horizon de retour, avec la nationalité canadienne chèrement acquise dans sa poche et ses avantages, mais qui vous fait comprendre en même temps que vous êtes là pour toujours et qu'à chaque mois de février, de chaque année, à 6 heures du soir, il faudra subir cette barbarie et le retard de ce putain d'autobus de merde qui ne vient pas. Il faut d'abord éprouver ça, et plus d'une fois. Se convaincre que ce sera dorénavant et pour toujours sa condition. Adieu figuier, adieu néflier, bienvenue arpent de neige. Il faut vraiment savoir ce que c'est que des narines qui collent,
des yeux qui sèchent, des cils qui se cristallisent, des pieds qui brûlent et l'impuissance de hurler sa rage contre personne. Aucun bureau de réclamation. C'était entendu depuis le début, il fait froid à Montréal l'hiver. C'est comme ça, le Gulf Stream, il fait un gros fuck you juste après New York pour bifurquer et filer droit vers la Norvège. Et vous êtes là dans un abribus, ironie jaunâtre qui ne ferait rire personne puisque ça n'abrite rien du tout. Et que peut un abribus contre un vent qui vient de Russie ? C'est comme se protéger d'une bombe nucléaire avec un lance-pierre, sans compter que le mot « abri » vous renvoie au bombardement de votre enfance et que le mot « bus » vous renvoie à rien du tout puisque justement, il n'y a toujours pas de Bruce. Et vous vous demandez, mais comment croire que Montréal soit à la même latitude que Bordeaux, quand Bordeaux, en ce mois de février, voit déjà ses platanes bourgeonner quand ici, il y a encore deux pieds de neige et que des gens osent trouver ça beau ? Vous songez à cela, vous songez à ce connard de Jacques Cartier et vous lui en voulez de ne pas avoir navigué un tout petit peu plus vers le sud. Mais frigorifié, congelé, vous fermez votre gueule, votre pays natal est en guerre, et vous pensez alors à tous les Libanais sous les bombes qui donneraient tout ce qu'ils ont pour être à votre place et attendre ce foutu autobus qui ne vient toujours pas. Alors ça, c'est la première expérience qu'il faut avoir vécue plusieurs fois. La seconde expérience se passe des années plus tard, toujours au milieu du mois de février, toujours à 6 heures du soir, et toujours un autobus qui ne vient pas. Mais ce n'est plus le même endroit, ce n'est pas la même géographie. L'autobus tardant, vous décidez d'aller vous installer sur la terrasse de ce restaurant-là, au pied du Cap Sounion, d'où vous pouvez admirer les ruines du temple dédié à Poséidon au bord de la mer. La température est de 17 degrés, il n'y a pas de vent. Le soleil se couche et tout prend cette teinte ambrée, même si au cœur de la lumière, on devine un jaune profond, reste d'un jour radieux qui finit de glisser sur la pierre antique là-haut. Au diable, le bus, vous mangerez là, il y a une légèreté, une insouciance, la nourriture est aussi simple que bonne, savoureuse. Et tout à coup, parce que c'est le mois de février, par association d'idées, vous souvenant de l'abribus, regardant sournoisement sur votre portable la température qu'il fait à Montréal, éclatant de rire en réalisant qu'un écart de 40 degrés sépare l'endroit où vous vous trouvez en ce moment de celui où vous auriez dû être encore si vous n'aviez pas eu un jour le courage de tout quitter. Par contraste donc, entrant dans les interstices de cette lumière sans égale que le climat de cette région du monde offre, dans les reflets si doux de la mer, le bleu incandescent du ciel, les silhouettes des enfants en contre-jour du soleil qui court sur la plage, cette félicité absolue que l'on retrouve dans les poèmes de la Méditerranée, il vous apparaît tout à coup, mais évident, mais plus qu'évident, à l'aune de votre bien-être. Personne ne vous interdit d'être là, de toute façon, ne vient vous déranger, vous demander de vous justifier, personne ne vous interdit. Il vous apparaît alors évident que jamais, mais jamais, la démocratie aurait pu apparaître par moins 30 degrés, et sous la neige, et loin des arbres fruitiers. Il fallait cette douceur de vivre. Il fallait cette douceur de vivre, tant elle est elle-même, la démocratie, porteuse de fruits et de douceur. Il ne fallait pas être crispé. Il ne fallait pas être entouré de forêts de sapins, de chênes et de hêtres, d'ours et de castors. Il fallait des cigales. Il fallait des oliviers. Se figurant alors Périclès, roi d'Athènes, on n'a pas beaucoup de difficultés à l'imaginer, songer combien il est bête lorsqu'on commande une cité de ne pas pouvoir profiter tranquillement de ses douceurs qu'offrent les dernières heures du jour. On peut bien sûr écraser toute rébellion, écraser la ville, mettre des soldats partout pour protéger cette tranquillité, bien sûr. Mais quelle fatigue! On est toujours sur ses gardes, on craint toujours l'assassinat, la révolte, le coup d'État, c'est chiant, c'est épuisant. On en profiterait tellement plus s'il n'y a pas ce genre d'inquiétude. On en profiterait davantage si tous les citoyens pouvaient bénéficier avec nous de cette bonté de la nature. Régner serait bien plus agréable. Comment faire en sorte que cela se puisse ? Quel système politique mettre en place pour que nous puissions jouir en toute tranquillité de la légèreté de ces jours radieux ? Si déjà chaque citoyen doit subir la dictature du despote à l'intérieur de la maison, despote non donné au père, fais ceci, fais ça, fais cela, mange ci, range ça, brosse-toi les dents, sors les poubelles, prends ta douche, va te coucher, ferme ta gueule, et qu'il fallait, sortant de sa maison, subir la dictature du tyran, paye ci, paye ça, va mourir à la guerre, donne-moi ton fils, donne-moi ta fille, et ferme ta gueule, alors comment ne pas en arriver un jour ou l'autre, et avec raison, à la révolte ? Mais si, contre la loi du despotique de la maison, on équilibrait l'existence des citoyens par la loi de la cité en leur offrant choix, parole et liberté, alors ils auraient hâte de sortir de chez eux. Alors il y a espoir que le calme et le bonheur règnent pour tous. Le choix, donc, comme système politique. L'idée de la démocratie, ce miracle grec, peut donc en partie s'expliquer par le désir simple de vouloir profiter tous ensemble des apéritifs de fin d'après-midi. Car quel sens la vie pourrait avoir si l'on n'a pas ces moments-là? Si ces moments sont réservés seulement à quelques-uns uniquement, s'il n'est pas permis de se sentir heureux, simplement heureux, au milieu des siens, dans la légèreté de la lumière et la beauté partagée de la nature. Du ciel bleu aurait donc surgi au 5e siècle avant notre ère, à Athènes, sous le règne de Périclès, un système politique innovant où les citoyens avaient la liberté de choisir leur destin. Démocratie. C'est ahurissant quand on y pense. Sur la grande place du marché, on débattait et puis on votait. Et chaque citoyen avait le droit de faire valoir publiquement son point de vue sur une question d'intérêt général. Faisant le tour des différents points de vue, ceux qui n'avaient pas parlé rangeaient leur voix auprès de ceux qui avaient exprimé ce qu'ils pensaient eux-mêmes. Voilà. Mais, très vite, les Athéniens se sont rendus compte que celui qui s'exprimait le mieux et remportait les suffrages grâce à son éloquence n'était pas toujours celui qui avait les meilleures idées. Le parler beau ne menait pas forcément au parler juste. Alors, frappé d'étonnement face à la puissance du langage qui pouvait conduire un peuple entier à se jeter dans le faux, le désir du vrai est né chez les Athéniens, et de ce désir, l'amour, un amour qui s'est appelé philosophie, qui lui-même a fait naître un enfant, le plus surprenant que l'Occident ait vu paraître sous son soleil, un enfant mystérieux, joyeux comme la lumière, féroce comme la pierre, un miroir incarné dans un lieu ouvert vers le ciel et tourné vers la mer où l'humain pouvait contempler sa douleur et celle de son époque, un endroit d'où l'on voit, le théâtre. Or, au cœur de cette jeunesse, de cette jeune démocratie, la première pièce de théâtre qui introduisit la notion de tragédie et qui fut présentée au théâtre Dionysos à Athènes devant les Athéniens, au pied du Parthénon, fut écrite par un homme qui avait participé lui-même à deux reprises à la guerre contre les Perses, à Marathon d'abord et puis à Salamine ensuite, où il fut témoin de la destruction de l'armée de Xerxès I. Et cet homme s'appelait Échille. Or, pour son premier spectacle, 8 ans après avoir fait la guerre de Salamine, après l'immense frayeur ressentie par Athènes face à sa disparition, il est bon de se souvenir que l'avantage du nombre au début de cette guerre et de la puissance était surtout du côté perse, et très peu de contemporains auraient parié sur une victoire athénienne. 8 ans donc après cela, Échille choisit de raconter non pas la victoire des Grecs, mais il choisit de raconter la défaite des Perses vue depuis le camp des Perses. Or, il le raconte devant des Grecs. Et la manière avec laquelle il la raconte, par les chants, les paroles, les scènes et les descriptions des combats portés par le messager, tout cela est si poignant que le public grec, 8 ans après Salamine, est bouleversé par le désarroi des Perses. Il pleure ceux qui ont failli les détruire, leur ennemi. Alors la démocratie était donc ainsi faite que dès son apparition, grâce à ses poètes, elle affirmait qu'elle ne peut grandir et s'enraciner qu'à partir du moment où la notion d'humanité et de dignité était accordée à tous, c'est-à-dire tous, à l'ami autant qu'à l'ennemi, et surtout l'ennemi. Si le principe de la démocratie consiste à permettre à chaque citoyen de choisir et d'accorder sa voix à la parole qui lui convient, en laquelle il se reconnaît, alors l'impératif d'avoir des voix discordantes, des voix opposées, est une condition à son existence. Accepter la victoire de l'ennemi et se ranger sous sa bannière, tout en lui offrant la plus féroce opposition. Nier l'adversaire, c'est nier la démocratie. Bon, la caractéristique poétique de la démocratie, c'est d'avoir mis au même pied l'ami autant que l'ennemi et d'avoir accordé une égalité de droit aux deux. C'est cela qui rend fou de colère ceux qui la haïssent et la rejettent. Quant à ceux qui, en son nom, prétendent la défendre et la représenter, cherchant à effacer la mémoire de l'ennemi, cherchant à détruire sa culture, à raser son territoire, à déporter sa population, à la réduire à une sous-humanité, ceux-là ne feront rien d'autre que dévoyer la démocratie, la défaire de ce qui fait sa spécificité, la rabaisser au niveau de la dictature et, ce faisant, la faire sombrer dans la barbarie. Mais, au fil des siècles, les larmes sont devenues la propriété d'une morale tournée exclusivement vers la plainte de soi. On ne peut plus pleurer l'ennemi. Et les artistes sont les premiers responsables de cette hérésie. Se pleurer, se plaindre, se raconter soi, s'interdire l'autre, est contraire à toute idée du récit. Plus on se tourne vers soi, plus on aplatit le stimuli extérieur, moins on a besoin de choisir, moins on relie l'écriture à l'acte de changer, plus on se fixe, moins on devient politique. Médusés de plus en plus, nous sommes défaits de notre capacité de choisir. Nous nous retrouvons piégés par l'injonction de n'avoir plus d'autre choix que de se choisir soi-même. Je me parle de moi-même, moi-même. Plus on se plaint, moins on raconte des histoires. Ne vivre qu'avec soi et qu'avec ses amis est une des définitions de la dictature. En ce sens, le glissement qui a conduit depuis quelques décennies la démocratie à se rapprocher de la dictature a commencé par le langage. Nous n'avons plus confiance dans le langage. Chaque jour nous montre la perversion que nous en faisons, comment nous le manipulons, comment nous le détournons, comment nous l'instrumentalisons. Le langage est pourtant la seule source de guérison dont nous disposons. Les gestes comptent, mais sans une parole juste qui les accompagne, le geste se retourne contre nous. Au cours de la guerre civile libanaise, Beyrouth fut partagée entre l'Est chrétien et l'Ouest musulman, le long d'une ligne qui, à force d'être abandonnée au feu des mitrailles, a vu la végétation l'envahir jusqu'à ce qu'elle prenne le nom de ligne verte. En 2011, de passage à Beyrouth, je me suis intéressé à cette ligne verte et j'ai voulu en savoir plus sur la végétation. J'ai alors eu la chance de rencontrer Suzanne Boulos, une herboriste qui, à l'époque, était âgée de 92 ans. Et nous nous sommes retrouvés plusieurs matinées de suite dans les terrains vagues de Beyrouth, au milieu des autoroutes et le vacarme de la ville. Inépuisablement, à chaque pas que nous faisions, Suzanne m'indiquait chaque mauvaise herbe, déclinant son nom et décrivant ses bienfaits médicinaux. Celle-ci contre la toux, celle-ci contre la dépression. Celle-là, tu vois, elle fortifie le sang. Celle-ci, elle est excellente contre l'anémie. Et dans ce cratère plombé par la canicule de l'été, parmi les chiens errants et la pollution de l'air saturé de gaz carbonique, au milieu de cette blessure immense qu'est Beyrouth, je me suis mis à regarder autour de moi pour voir, malgré les nouvelles constructions, les stigmates de la guerre civile toujours visibles. Je me suis mis à penser à ceux qui sont morts ici sous les bombes, sous les balles des francs-tireurs et lors des combats et lors des massacres. C'est incroyable, dis-je alors à Suzanne. Les plantes qui guérissent poussaient pendant la guerre et on les appelait mauvaises herbes. Suzanne eut un grand sourire et très simplement, elle me fit cadeau de cette phrase. « Oui, mon fils, la guérison est toujours à tes pieds. Il suffit de te baisser et d'accueillir. » Eh bien, ainsi en est-il du langage. Dans le terrain vague de nos blessures, les mots sont là. Tous les mots sont là, tous. Tous les mots dans le dictionnaire, tous les mots sont là. Aucun n'est interdit, ils sont là. Il suffit de se baisser et de les cueillir, il suffit parfois de dire les mots qu'on n'a jamais dits. Dans « Les origines de la diplomatie » paru en 1945, quelques mois après la fin de la guerre, Ingmar Hummelin, un diplomate norvégien, souligne que, contrairement à l'idée admise par certains sociologues, la guerre n'est pas la première et la plus ancienne forme de relation entre groupes sociaux. Quelque chose était là avant, c'était le cannibalisme. Le cannibalisme a une origine magico-religieuse antérieure et n'était pas forcément un signe de bestialité. Ainsi, pour faire connaissance entre tribus ou pour se réconcilier, on offrait à l'autre groupe quelqu'un à manger, issu d'une autre. L'émergence de certaines tribus plus évoluées que les Mafulu cannibales eurent l'idée d'honorer un hôte plutôt que de le dévorer. Les cadeaux échangés ont commencé à prendre leur signification, remplaçant symboliquement les corps à manger. Chaque fleur se mit à indiquer un sentiment ou une idée différente. Doit-on y voir l'origine du langage fleuri et circonspect de la diplomatie ? On en discutera tout à l'heure au cours du séminaire. En cette époque où nous nous trouvons, où la diplomatie échoue à tous les étages, à ramener à la raison la bestialité de la plupart de nos dirigeants, il serait peut-être indiqué de revenir à cette tradition cannibale. Ainsi, Ukrainiens et Russes, Palestiniens et Israéliens, Israéliens et Libanais, Iraniens et Israéliens, Iraniens et Américains, Français et Algériens, Chinois et Ouïghours, Taïwanais et Chinois, continentaux, soudanais et darfouris, arméniens et azéris, congolais et rwandais, donneraient chacun à l'autre quelqu'un de son camp à dévorer. Dès lors, la question qui se pose devient cruciale. D'accord, mais comment choisir celui qui sera offert et qui fera office de plat principal ? Tirage au sort ? Concours de beauté ? Ou alors simplement qu'aimant à ce point leur pays, voulant son bien bien plus que les autres au point de vouloir le diriger, ce soit les présidents, les premiers ministres, les dictateurs et les chefs de chacun de ces pays qui s'offrent au succulent banquet de la réconciliation. Donald Trump en hamburger et Vladimir Poutine en bœuf stroganoff. Le roi Tebboune en couscous, Emmanuel Macron en bœuf bourguignon. Le cannibalisme comme une façon de réunir ceux qui ne veulent plus parler, ceux qui ne croient plus du tout à la force du langage. Après que Troie eut été saccagée, au milieu des ruines et des Troyens pendus aux remparts, sous l'amoncellement des enfants égorgés, on voyait les guerriers grecs piller et se partager les richesses innombrables de la cité de Priam. Ils se distribuaient entre eux et en riant les femmes et les filles de leurs ennemis. Parmi elles, Hécube, reine de Troie, mère de Hector. Les Grecs, pour s'amuser, l'avaient fait avancer pour qu'elle puisse contempler le saccage de sa cité. « Voici la mère d'Hector. Viens, Hécube, viens, on veut te montrer quelque chose qui va te faire plaisir. » Hécube regarde, elle tourne la tête, et c'est au milieu des cadavres des soldats troyens qu'elle voit alors son dernier enfant, sa fille Polyxène, se faire égorger comme victime expiatoire sur la tombe d'Achille. À cette vue, Hécube reste muette de douleur. Elle lève d'abord la tête vers le ciel, puis se tournant vers ses ennemis, ces Grecs venus de la terre d'Europe, et semblable à la lionne à qui l'on vient d'enlever son lionceau, mue par une force immense, Hécube se jette sur Polymestor, le chef qui avait commandé ce sacrifice, et alors elle enfonce ses doigts dans les yeux du traître, elle en arrache les prunelles, elle y plonge les mains tout entier et souillée d'un sang odieux, elle fouille et refouille le creux des orbites. Les guerriers tombent sur Hécube à coups de pierre pour la chasser, mais elle se retourne. Elle court après les pierres qu'on lui lance, les mords en grondant, ouvre alors la bouche pour parler. Et de cette bouche grande ouverte, voilà qu'en dépit de ses efforts, ne sort que des aboiements furieux. Elle aboie. Hécube aboie. Plus de mots. Elle aboie. Et pendant longtemps encore, on montra le rocher où elle se tenait, aboyant comme ceux qui tentaient de l'approcher. Sans plus de langue, sans plus de mots, chienne. Chienne de sa propre douleur. Alors combien de chiennes aujourd'hui au champ d'horreur ? Combien de chiennes ? Combien de chiennes ? Ils sont entrés dans les camps comme des fous furieux. Les premiers cris ont réveillé les autres et rapidement on a entendu la fureur des miliciens. Ils ont commencé par lancer les enfants contre le mur et puis ils ont tué tous les hommes qu'ils ont pu trouver. Les garçons égorgés, les jeunes filles brûlées, tout brûlées autour, tout brûlait, tout cramait. Il y avait des vagues de sang qui coulaient des ruelles. Les cris montaient des gorges et s'éteignaient. Et c'était une vie en moins. Un milicien préparait l'exécution de 3 frères. Il les a plaqués contre le mur. 3 frères, 8, 9 et 11 ans. Le milicien a tiré leur mère par les cheveux, l'a plantée devant ses fils, et l'un d'eux lui a hurlé « Choisis ! Choisis lequel tu veux sauver ! Choisis ! Choisis ! Choisis ou je les tue tous les 3 ! Choisis ! Je compte jusqu'à 3, à 3, je les tire tous les 3 ! Choisis ! Choisis ! » Et elle, incapable de parole, incapable de rien, tournait la tête à droite et à gauche et regardait chacun de ses 3 fils. Écoutez bien, je ne raconte pas une histoire, je raconte une douleur qui tombe tous les jours à nos pieds. Elle se balançait avec ses seins trop lourds et son corps vieilli pour les avoir portés, ses 3 fils. Et tout son corps hurlait. Mais alors à quoi bon les avoir portés si c'est pour les voir ensanglantés contre le mur, et le milicien criait encore « Choisis, choisis !» Alors, elle l'a regardé, et elle lui a dit comme un dernier espoir « Mais comment peux-tu, regarde-moi, je pourrais être ta mère !» Alors, il l'a frappé « N'insulte pas ma mère, et choisis !» Alors, elle a dit un nom et elle est tombée, le milicien a battu les 2 plus jeunes, il a laissé l'aîné en vie, tremblant, il a laissé, et il est parti, et les 2 corps sont tombés. La mère s'est relevée, et au cœur de la ville qui brûlait, qui pleurait de toute sa vapeur, elle s'est mise à hurler que c'était elle qui avait tué ses fils, avec son corps trop lourd, maudissant, aboyant, vomissant. Elle disait qu'elle était l'assassin de ses enfants. Combien de chiennes encore ? Combien de chiennes encore ? Trahir le langage, c'est faire aboyer à l'autre bout du monde ceux qu'on prétend protéger. Alors on doit choisir à quoi on veut appartenir. L'écriture des douleurs se décline, pour le poète, dans l'aveuglement des images. Ramasser les fragments de ce qui est meurtri et le consoler, le ramener à la mémoire, le raconter, ça, c'est le travail du poète. Mais il existe un autre travail, qui est celui qui inlassablement essaye, tente, de tisser entre les belligérants le lien de l'humanité. Celui-là, celle-là, qu'on nomme diplomate, n'a que le langage pour avancer dans le champ de ruines. Mais que peut encore le langage ? Et qui croit encore au langage ? Et comment restaurer le langage ? Comment à l'enfant qui joue à la table le convaincre de continuer, malgré le sang, malgré la douleur et malgré le désespoir, de tenter toujours, au-delà des échecs, de reconstruire sans cesse le puzzle sans image du verbe choisir. Merci beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.